Bonjour à tous. Merci Francky, merci aussi toute l'équipe de groupe de louanges qui nous a vraiment entraînés à louer le Seigneur. Les paroles étaient vraiment très fortes. Oui, le Seigneur qui est notre roi, notre sauveur, ben, on doit justement l'adorer. J'espère que vraiment ce matin, vous l'avez adoré en esprit et en vérité, que nous puissions vraiment aussi avoir ce temps maintenant d'écoute de la parole de Dieu pour être élevés. Et c'est vrai, tout à l'heure, tu nous as rappelé, Francky, que la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Que ce temps d'écoute puisse vraiment nous aider à élever auprès du Seigneur. La semaine dernière, nous avons fêté la résurrection du Seigneur. Ça nous a vraiment beaucoup réjouis. C'était un culte très intense sur la résurrection avec les enfants. Et après cet événement, Jésus, après la résurrection, est resté pendant 40 jours avec ses disciples en leur enseignant la parole de Dieu. Et parmi les paroles qu'il a laissées, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et là, j'aimerais m'arrêter sur « Allez, faites de toutes les nations ». Il ne parle pas seulement les Israélites, mais il parle toutes les personnes. Quand je vois notre Église, ça représente un petit peu cette parole où il n'y a pas juste une seule ethnie, mais plusieurs populations. On est très cosmopolite d'ailleurs. Il doit y avoir au moins une bonne vingtaine de nationalités différentes, et si on les compte bien. Et ça nous réjouit aussi d'avoir ce genre de mélange. Oui, le Seigneur nous demande d'aller vers toutes les nations. Et ce message n'est pas un nouveau message, puisque même à l'époque de l'Ancien Testament, le Seigneur appelait d'autres nations à se convertir. Et j'aimerais ce matin vous parler du livre de Jonas, que vous connaissez sûrement, parce que depuis tout petit, on parle beaucoup de Jonas, c'est une histoire très intéressante, même à raconter aux enfants. Et donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que, vous savez que Jonas était un prophète. Et le rôle d'un prophète, c'était quoi? De transmettre les messages que Dieu aimerait transmettre au peuple. Il était vraiment un outil pour pouvoir transmettre au peuple. Or, étonnamment, à l'inverse des autres livres prophétiques, dans le livre de Jonas, le texte prophétique n'occupe pas une grande place. C'est juste quelques lignes. Et la plupart du livre de Jonas, on voit l'histoire de Jonas. J'aimerais vous lire les trois premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Voilà, maintenant, le Seigneur parle à son serviteur, à son prophète Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu demande de se mettre en route. Enfin, Dieu demande vraiment de crier auprès de ces Ninivites qui ont commis beaucoup d'atrocités et même de péchés. Et Jonas se leva. Et là, on se dit, mais Jonas se lève dès qu'il a entendu le message. On a l'impression qu'il va courir pour obéir à la parole de Dieu. Ah ben non, Jonas se leva pour s'enfuir. S'enfuir où? À Tarsis. C'est très intéressant parce que voilà Jérusalem, voilà l'Israël. Ninive se trouve tout à l'est, à environ 120 kilomètres. Donc au nord de l'Irak actuel. Et là, il va à Tarsis. Tarsis se trouve en Espagne. Donc, qui se trouve 5200 kilomètres de Jérusalem. C'est un long voyage. Et c'est à l'ouest. Là, Dieu demande d'aller à l'est. Et là, dès qu'il a entendu le message, il va à l'ouest. Et il va prendre plusieurs semaines pour y aller, pour y arriver jusqu'à Tarsis. Donc, loin de la face de l'Éternel. Il veut même se cacher de la face de l'Éternel. Même si il a, j'ai l'impression qu'il veut vraiment s'éloigner même de Dieu. Il ne veut pas entendre le message de Dieu. Il descendit à Jaffa. Donc là, dès qu'il a entendu, il va donc vers le port, vers le port qui s'appelle Jaffa. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, donc voilà, il a pu payer le prix d'embarcation et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Voilà les trois premiers versets. Très intéressant déjà. On voit un petit peu l'histoire. On voit un petit peu l'histoire. On avait l'impression au départ, quand il se mettait en route, dès qu'il a entendu le message de Dieu, on avait l'impression qu'il allait justement courir pour obéir à Dieu. Ah ben non. Parfois, nous avons même, on peut même donner l'impression d'obéir à Dieu aux yeux des autres, en venant par exemple au culte tous les dimanches, en respirant même un peu d'odeur de sainteté dans cette église, mais finalement être loin du Seigneur. Ici, Jonas, au lieu d'aller donc à Ninive, il va au port de Jaffa. Jusqu'à l'arrivée au port de Jaffa, tout se passe bien. Et là, il court vraiment pour s'enfuir. Il ne va pas lentement, il court et il ne rencontre aucun problème, pas de brigands sur la route. Et dès qu'il arrive à Jaffa, il trouve tout de suite une place pour aller à Tarsis. Hein, c'était très difficile de trouver aussi une place. En plus, trouver un bateau qui y va, parce que ce n'est pas tous les jours que le bateau tire son voile pour y aller, surtout dans un lieu très très loin, lointain. Tout se passe bien. On a l'impression que Dieu n'interfère pas dans ses affaires. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Il laisse faire tout simplement. Il laisse faire tout simplement. Et puis, bien sûr, les épreuves arrivent comme une tempête. Et oui, si, c'était une vraie tempête qui arrive. C'est là que Dieu intervient. Il voulait que Jonas comprenne sa volonté. Et malgré l'entêtement de Jonas, Dieu veut vraiment le ramener vers lui. Il veut vraiment qu'il comprenne le vrai message, sa vraie volonté. Au verset 4, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. C'est marrant, n'est-ce pas? Lorsque parfois nous sommes loin de Dieu, le Seigneur oriente les circonstances de nos vies pour nous interpeller. Ici, il a utilisé la tempête pour interpeller Jonas. Le but de sa démarche était toujours le même, c'est-à-dire se rapprocher de lui pour que, voilà, qu'il se repente et qu'il obéisse à sa parole. Et c'est la même chose aussi pour nous. Lorsque nous sommes loin du Seigneur, Dieu utilise aussi des circonstances, des situations, parfois les épreuves même, pour nous faire revenir, pour que nous puissions de nouveau avoir une relation avec notre Père. Il lance un appel à travers la tempête, mais Jonas ne réagit pas. D'ailleurs, Dieu lui donne la possibilité de choisir, soit d'accepter, ou de refuser cet appel. Mais il ne réagit pas. Il refuse carrément. Devant les menaces de la mort, qu'est-ce que les autres font? Déjà, ils ont peur pour leur vie. Et surtout, spirituellement, ils implorent chacun leur Dieu pour que leur Dieu puisse calmer la tempête. Et puis, physiquement, ils allègent le bateau pour plus de sécurité. alors que tout le monde est en train de travailler pour mettre les choses en dehors du bateau, pendant ce temps, Jonas descend au fond du navire. Au fond du navire. Vous vous rendez compte? Au fond du navire. C'est tout au fond. Dans d'autres versions, c'est dans la cale du bateau. C'est vraiment au fond du bateau. Normalement, au fond du bateau, c'est au-dessous de niveau de la mer. Tout ça pour dormir profondément. Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû trouver un gilet de sauvetage ou aider les autres pour alléger le bateau. Ah ben non, il descend au plus bas du bateau, sous le niveau de la mer, où il s'endort. D'ailleurs, je ne sais pas comment il a fait pour s'endormir, parce que le bateau secouait à fond, il y avait des grandes vagues fracassantes contre contre le bateau. Il y avait vraiment la tempête, faisait rage à l'extérieur. Mais voilà, je pense peut-être qu'il a tellement couru et pour attraper ce bateau qu'il était tellement fatigué. Ils s'en foutaient carrément la tempête. Est-ce qu'il était vraiment inconscient du danger? Ou est-ce qu'il était conscient que c'était Dieu qui l'interpellait, mais qu'il fuyait cet appel de Dieu? C'est à vous de conclure sur cette question. En tout cas, il veut s'enfuir. Il veut s'enfuir de cette réalité. Il veut s'enfuir de tout ce qui se passe en ce moment. Il veut être complètement déconnecté de toute réalité. Parfois, c'est ce que nous faisons aussi quand nous avons des problèmes. Lorsque nous rencontrons des épreuves, on se concentre ailleurs pour ne pas y penser, pour échapper à cette dure réalité. Parfois, souvent, les gens font appel à l'alcool, d'autres personnes font appel à l'abus de certains médicaments, ou d'autres personnes font appel à d'autres addictions pour oublier, pour fuir cette situation de malheur. Oui, c'est toutes ces choses peuvent nous endormir profondément pour nous déconnecter de la réalité. Jonas voulait au travers du sommeil s'enfuir de cette situation. Il ne voulait vraiment pas obéir à la parole de Dieu. Au verset 6, c'est très intéressant. Puisque Jonas n'écoute pas la parole de Dieu ou les signes de Dieu à travers la tempête, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une autre personne. Maintenant, la nature ne suffit pas, alors il envoie une personne pour lui délivrer un message. C'est le pilote, c'est le capitaine du navire qui lui parle de la part de Dieu en fait. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu !» Incroyable, c'est un athée qui parle. « Invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Deuxième appel de Dieu, et qu'est-ce qu'il fait devant cet appel? Il ne réagit pas. Il ne réagit pas. Il ne fait rien. Il était au fond du gouffre. Il vient de se réveiller, peut-être à moitié conscient. Il entend le message de la part de ce capitaine et ça ne lui fait pas tilt. Non, en fait, il ne réagit pas. Ensuite, c'est seulement après le tirage au sort qu'il avoue aux autres que c'est à cause de lui, effectivement, que toutes ces choses leur arrivent. Je vous lis les quatre versets suivantes. À partir de verset 9, il leur répondit, « Je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, et qui a fait la mer et la terre. » Incroyable, les gens apprennent que le Dieu que sert cette personne qui a été tirée au sort, ce Dieu est un Dieu de toute la création, des cieux, de la terre, mais surtout de la mer aussi. Ces hommes eurent une grande frayeur. Voilà, ils ont eu la foi. Et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il l'avait avoué pourquoi il était dans ce bateau. Et après avoir su cette histoire, il dit, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car La mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit. Donc c'est Jonas qui leur répond. Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Jonas avoue que tout est de sa faute. Donc, pour que la colère de Dieu ne les atteigne pas, il leur propose de le jeter dans la mer. Autrement dit, il décide de mourir. Il décide de mourir. Si j'étais à sa place, je n'aurais pas proposé à cette solution. Je lui aurais dit, notre Dieu aimerait que moi, je reprenne la route pour aller à Ninive, donc changeons de cap. Changeons de cap. Comme ça, vous serez tous sauvés. Hein? Il aurait pu faire ça. Mais j'ai l'impression que dans cette parole aussi, il ne veut pas obéir à Dieu. Il préfère mourir que d'obéir à Dieu. Et donc il dit, jetez-moi dans la mer. Il ne sait même pas que Dieu va envoyer un grand poisson pour l'avaler. Hein? Il veut mourir pour ne pas obéir. Il sait que voilà, dans 40 jours, dans plusieurs jours après, ces Ninivites vont être détruits, jugés par Dieu. Donc ça lui fait du bien, en fait, que ses ennemis meurent. Et il veut mourir, il décide de mourir. Au verset 17, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Voilà, il nous dit que l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas durant 3 jours et 3 nuits. Et dans ce ventre du poisson, c'est seulement dans ce lieu-là qu'il commence à prier. Alléluia! Il commence à avoir enfin une relation avec le Seigneur. Même si parfois il y a certaines plaintes, mais il commence à prier. C'est une prière d'ailleurs formidable. C'est dans le chapitre 2, je vous lis. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Peut-être dans la mer hein, qu'il a invoqué son Éternel. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et il a entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi, etc., etc. Et il dit à la fin, au verset 7, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Là, il avoue qu'il s'est souvenu de Dieu. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Si je résume un petit peu l'histoire jusqu'à maintenant, Dieu n'a jamais forcé Jonas à obéir à sa parole. Il voulait vraiment avoir une relation naturelle et surtout qu'il obéisse volontairement. Obligeant. Je vous fais deviner mes pensées, c'est pas possible. Il voulait pas justement obliger Jonas à obéir parce que il respecte notre libre arbitre. Et puis, pour ramener vers lui, il utilise plein de circonstances de la vie, comme la tempête, comme l'appel lancé par ce capitaine du navire, ou encore en utilisant même ce grand poisson pour le prendre, pour le sauver de cette détresse, de cette situation de détresse. Et là, c'est à ce moment-là qu'il comprend que, voilà, il décide d'obéir au Seigneur et il reprend finalement le service. Il va à Ninive et il va transmettre, délivrer le message de Dieu à tous les Ninivites. Alors, étonnamment, à sa surprise, Il voit que tout le peuple l'écoute. Il dit, voilà, dans 40 jours, vous allez être détruits à cause de vos péchés, à cause de votre méchanceté. Et là, les gens commencent à se repentir, etc., etc. Et même la nouvelle, ou plutôt le message prononcé par Jonas, a été entendu même par le roi qui était tyrannique, orgueilleux. Lui-même, après avoir entendu ce message de la repentance, il est descendu de son trône. Il a ôté son manteau. Il se couvre d'un sac. Il s'assit sur la cendre pour demander pardon. Même le roi. Et il dit même, il donne cet ordre à tout le peuple et même à tous les animaux. On va jeûner ensemble. On va prier ensemble pour demander pardon. Et c'est comme ça que... et non seulement ils ont prié, jeûné, mais aussi ils ont abandonné leurs pratiques. Ils ont abandonné les idoles. Ils se sont tournés vers le Seigneur. Après avoir vu ça, ce spectacle merveilleux, le Seigneur, qui avait au départ décidé de les détruire, il change d'avis. Il décide de ne plus les juger, de les détruire. Voilà, c'est une belle histoire. Dans cette histoire, Dieu avait deux projets. Tout d'abord, la repentance des Ninivites. Mais aussi, dans son plan, il y avait aussi la repentance de Jonas, lui-même. Car Jonas, voyant cette grâce accordée aux païens, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se réjouir avec le Seigneur, il se met en colère. Il ne voulait pas que les païens soient dans le plan du salut. En fait, c'était ça le péché de Jonas. Il détestait vraiment tous les étrangers, toutes les personnes en dehors des Israélites. Au chapitre 4, versets 1 et 2, je vous lis, « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Ha. Jonas savait le caractère de Dieu. Jonas connaissait le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il ne voulait absolument pas y aller à Ninive, pour que ces étrangers, ces païens se convertissent. Après avoir vu ce spectacle, normalement ce beau spectacle de repentance pour Dieu, mais pour lui c'était quelque chose d'assez gênant, il dit à Dieu, « Maintenant l'Éternel, prends-moi donc ma vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Il dit, il préfère mourir que de voir ses païens se convertir. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Incroyable, hein? Il préfère mourir que de voir ses ennemis se convertir à Dieu, entrer dans le plan du salut. On a l'impression de voir des enfants, non? Oui, hein? Quand les enfants ne sont pas contents, qu'est-ce qu'ils font? Ils boudent. Ils disent surtout aux parents, je ne mange pas. Aujourd'hui, je ne mange pas. Non, non, ça ne va pas, là. Je vais faire du mal à moi, hein? Comme ça, tu vas avoir mal aussi, toi aussi. Hein? Pour faire du mal aux parents. Il exprime, comme un enfant, Jonas exprime sa colère en disant que « prends donc ma vie, je veux mourir. » Et donc, il sort de la ville presque en tapant du pied. Il se construit une cabane et il attend voir ce qui va se passer. Pourquoi d'ailleurs il se détourne pas? Enfin, il aurait dû retourner en Israël. Il a accompli sa mission. Mais au lieu de retourner en Israël, il va un peu plus loin, sur une falaise, pour voir ce qui va se passer. Ça veut dire quoi ça? J'ai l'impression qu'il attend que les gens retournent dans leur péché d'avant, pour que Dieu de nouveau s'enflamme et que Dieu les punisse. En tout cas, dans cette attente, Dieu fait pousser un arbuste, un ricin, qui produit de l'ombre à Jonas. Et là, il est à l'ombre, très content. Jonas est ravi. Je vais lire maintenant 6 versets, qui est très intéressant. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Voilà, donc pour le calmer de sa colère, il dit, bon, je te fais du, voilà, quelque chose de bien. Hein, à l'ombre, tu seras peut-être apaisé, ta colère sera apaisée. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Hein, peut-être il a oublié un petit peu sa colère. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin. Et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Déshydratation totale. Il demanda la mort. Encore, en fait, c'est son habitude. Hein. Seigneur, tue-moi. Seigneur, tue-moi. Je vais me tuer dans la mer. Hein. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. C'est quelqu'un qui ne supporte pas la douleur, même la douleur de son cœur, la douleur physique. Enfin bref, Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Ah là là, encore une fois. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droit de elle et de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Toi, tu as de la pitié pour ce ricin qui vient de dépérir, et moi, j'aurais pas le droit d'avoir cet amour pour ces gens-là, pour ma créature, pour mes créations. Voilà, Jonas devrait à ce moment-là comprendre le vrai message de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu compatissant dans la colère, riche en bonté. Il veut vraiment miséricordieux à l'égard de ces Ninivites. Il devrait, je pense, à travers ce message, je pense que Jonas a dû comprendre ses erreurs, son erreur, et que, voilà, il a dû peut-être changer de regard. Le Seigneur, à travers cette histoire, aimerait vraiment que nous ayons aussi ce même regard de Dieu, c'est-à-dire regarder mon prochain, mes voisins, avec ce regard miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, pour pouvoir transmettre le bon message. Dieu a dit, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui est encore intéressant dans cette histoire, vous savez ce qu'ils sont devenus, ceux qui étaient dans le bateau? Je vous lis. Au chapitre 1, après avoir entendu que c'était Jonas qui était fautif, voilà, ils invoquèrent l'Éternel. Oh là là, les non-chrétiens invoquent l'Éternel et dirent, ô Éternel, maintenant qu'ils savent que ce Dieu est un Dieu de création, de toute la création, ils disent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas, le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Il regarde, il voit, dès que Jonas est lancé, jeté dans la mer, il voit un changement de température, changement de météo. Incroyable, un miracle total. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de Dieu. C'était la preuve de l'existence de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent un sacrifice à l'Éternel. Ça veut dire qu'ils demandent le pardon. Sacrifice, c'est quoi? C'est pour demander pardon. Et firent des vœux. On a l'impression qu'il y a une conversion massive aussi dans le bateau, n'est-ce pas? À travers cet épisode de Jonas. Ils sont devenus, entre guillemets, des adorateurs de Dieu. Ils ont cru et ils ont fait même des serments. Serments, oui. et connu aussi, après avoir connu ce temps de repentance. Je vais conclure. La première leçon de ce texte est que parfois nous pouvons être loin de Dieu. Et il veut vraiment, vous savez que Dieu veut toujours nous ramener vers lui, que toutes sortes de moyens, il utilise aussi toutes sortes de moyens à sa disposition pour reprendre cette relation. Et lorsque Dieu nous toque cette porte, que nous puissions ouvrir pour de nouveau avoir cette relation cassée. Et sachez aussi que c'est à nous, enfin, il nous appartient d'avoir cette démarche volontaire à son égard. La seconde leçon de ce texte est que si nous sommes en désaccord avec Dieu, parce qu'il était toujours désaccord jusqu'au chapitre 4, il n'était pas content de la conversion des Ninivites. Ce qui est intéressant quand même, que même s'il était en désaccord avec Dieu, il a de nouveau commencé la relation avec le Seigneur. Il a de nouveau prié. Et donc, parfois, Dieu nous demande de faire ceci, mais vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais le plus important, c'est de ne pas couper ce lien avec le Seigneur et garder ce lien de prière et d'écoute de sa parole. Et voilà, Dieu continue en tout cas à le former, à l'enseigner pour qu'il change de pensée. Et puis, troisième chose, nous avons vu aussi que Dieu aime toute sa création. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, c'est pas seulement les Israélites, c'est pas seulement les chrétiens, mais quiconque fait partie aussi des musulmans, quiconque, ça fait partie aussi de toutes les personnes qui sont dans l'occultisme aussi. Il est vrai vraiment que les faire revenir auprès de lui. Et donc, quiconque viennent confesser le Seigneur Jésus pour qu'il ne périsse pas. Il a sauvé, dans cette histoire de Jonas, des gens de Ninive, mais aussi des gens qui étaient dans le bateau. Et ils ont pu abandonner l'idolâtrie. Ils ont pu revenir auprès du Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut aussi à travers notre témoignage. Que vraiment nous puissions aussi apporter un témoignage fidèle pour que nos proches, notre prochain, puissent vraiment se repentir, comme les Ninivites, comme ces gens qui étaient sur le bateau, et revenir auprès de la croix. L'image de Jonas est comme l'image du chrétien d'aujourd'hui qui a reçu la grâce et la bénédiction, mais parfois on refuse cette responsabilité d'un chrétien qui doit justement aller vers les nations. Dieu ne nous a pas donné forcément le don d'évangélisation, mais il nous a donné à vivre en tant que disciples et en tant que témoins. Nous pouvons aussi justement transmettre ce beau message. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et que nous puissions en tout cas penser toujours à de nouveau à progresser, à avoir toujours une bonne relation avec le Seigneur. Et voilà, que ce message puisse nous aider à réfléchir et surtout à remémorer encore une fois cette parole, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce rappel à travers l'histoire de Jonas, combien il est important de revenir vers toi. Parfois, lorsque nous sommes loin de toi, tu utilises des moyens pour nous appeler, pour nous faire réfléchir. Seigneur, que nous puissions répondre à cet appel, accepter ce retour auprès de Dieu pour rétablir la relation perdue. Seigneur, à travers cette histoire aussi, tu aimerais que nous ayons tes attributs, que nous puissions, oui, avoir la miséricorde, la compatissance, c'est cette bonté, Seigneur, et que nous soyons vraiment aussi lents à la colère comme toi. Tu as été toujours patient auprès de ces personnes qui étaient dans le péché, dans la désolation. Seigneur, oui, que nous puissions avoir cette patience aussi auprès de mon prochain pour pouvoir transmettre ton message. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu as pu nous parler ce matin. Que c'est cette parole que nous avons reçue soit aussi pratiquée durant cette semaine. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui,